Jeff Caron.
Très content de lui parler, très content qu'il fasse partie de l'équipe encore en 2026. Comment ça va, Jean-François?
Super bien, toi?
Très bien. On a choix des cadeaux. On a choisi nos cadeaux. C'est juste que juste pour élaborer un peu. Au menu, ben il aurait pu y avoir Venezuela, Cuba, l'Ukraine, la Russie, le Groenland, le Canada, la Chine avec Carney, voyage qui commence aujourd'hui, les États-Unis. Mais non, on a choisi la France, en fait. Je te lance des sujets comme ça, puis évidemment, on y va avec ce qui nous allume. C'est parce qu'hier, j'ai écouté ça, puis ça a duré quasiment toute la journée, des points de presse de l'armée française sur le recrutement, sur la mobilisation volontaire. Il n'y a pas de conscription en France.
Ouais.
Mais il y avait quand même des débats sur plusieurs tribunes sur comment rajeunir l'armée et surtout la regarnir. T'en dis quoi de tout ça?
Ben c'est ça. Écoute, la conscription en France, de mémoire, c'est Jacques Chirac qui l'a abolie lors de son premier mandat, donc vers la fin des années 90, mais jusqu'à il y a 25-30 ans, il y avait toujours le service militaire obligatoire en France, ça a été aboli. Donc là, face au contexte international, la France a décidé de mettre en place ce qu'il appelle un service national ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans sur la base du volontariat, puis ça va entrer en vigueur en septembre 2026. Donc les avantages matériels qui sont proposés, c'est une solde d'au moins 800 euros bruts par mois, hors les primes éventuelles, puis c'est un salaire aussi qui est pas imposable, ce qui correspond à peu près à ce qu'on appelle ici en France au SMIC, qui est à peu près entre 1200 1500 euros. C'est comme le salaire minimal que toute personne a besoin pour être en mesure de survivre. Donc 800 euros bruts non imposables, ça correspond à peu près au SMIC. Puis aussi les frais d'hébergement puis d'alimentation vont être couverts pendant la durée du service militaire qui peut durer jusqu'à 10 mois. Honnêtement, il y a des vertus dans le service militaire, principalement en France. C'est une formidable usine de la citoyenneté dans la mesure où ça montre aux gens qu'être citoyen, c'est pas uniquement une question de droit, mais c'est aussi une question de devoir.
Je suis en faveur de ça pour le Canada. On en a déjà parlé, mais c'est pas un service militaire tel qu'on peut l'illustrer avec un camp de redressement puis un gars qui te crie après à longueur de journée. C'est pas ça du tout. C'est pas ça mon idée, c'est pas ça ton approche nécessairement.
Non.
Mais c'est pas ça comme on l'a vendu aussi. Hier, j'ai aimé l'approche française que t'es ingénieur, tu vas être ingénieur, t'es pompier, tu vas être pompier. C'est pas, on a besoin de faire un canon contre les Russes, là.
Si t'es un geek de l'informatique, on va t'envoyer dans une unité pour opérer des drones. Les vertus civiques, historiquement, la France, le service militaire, ça a permis aussi de favoriser l'acculturation des individus qui appartenaient à des communautés dans des unités où les membres de ces communautés-là étaient tout seuls. Donc, ils se sont, lentement mais sûrement, ils se sont assimilés. Ça a permis de briser le cercle vicieux de l'isolement communautaire en élargissant à leurs membres, leurs horizons de signification. Ça a aussi permis la consolidation du français comme langue commune. Puis ça a surtout aussi permis à des gens de différents milieux de se côtoyer, ce qu'ils n'auraient jamais fait dans la vraie vie. Donc, service militaire, vous aviez des fils de bourgeois qui partageaient des baraquements avec des fils d'agriculteurs puis de travailleurs d'usine. Ben ça, c'est super pertinent. Mais donc, ce qui est visé par le service militaire en France, ça pourrait aussi avoir certaines vertus civiques en permettant, par exemple, à des jeunes désœuvrés puis sans projet de vie de pouvoir en découvrir un dans le métier militaire tout en étant payé pour le faire. Mais tu sais, l'idée principale de Macron, ça reste de former une réserve qui va être prête au combat dans l'éventualité d'une guerre contre la Russie.
Est-ce que c'est dans les cartons? Est-ce que c'est de la politique fiction? Est-ce qu'on se prépare à... Parce que je vais te rappeler la citation de Fabien Mandon, qui est le général. Oui. Hier, on a voulu abrier un peu cette polémique-là, ce que ça avait créé. Quand il avait dit que le pays, il avait dit, ils sont là en audio, on l'a lu, là, que la France devrait accepter de perdre ses enfants.
Préparez-vous à perdre vos enfants.
Ouais. Qu'est-ce que t'en dis de ça? On a voulu peinturer, on a voulu mettre une couche de peinture.
Mais en réalité, c'est ça. C'est lentement, mais sûrement. Moi, je vous le dis, je pense, depuis 2-3 ans, l'Europe marche comme un somnambule, lentement mais sûrement, vers la guerre. Puis, si je peux faire une comparaison, c'est, on est en 1912-1913. Là, en ce moment, là, il y a des moments de tension. Ces tensions-là ne sont pas réglables par le droit international. Ça se fait en vertu de la force. Il y a des puissances émergentes qui essaient de placer leurs pions à gauche et à droite. Les puissances qui sont appelées à être remplacées essaient de, elles aussi, placer leurs pions à gauche et à droite. Puis ça, ultimement, ça va éclater à un moment donné lorsqu'il va y avoir une crise qui, a priori, va être bénigne. Elle ne sera pas si significative que ça, mais ça pourrait éclater en guerre plus large, en tout cas dans le contexte européen. Donc, clairement, l'idée de Macron ici, c'est de former des individus qui, un jour, vont être prêts à prendre des armes s'il y a une guerre avec la Russie. Puis la Russie fait la même chose.
Ben, je vais poser la question. Regarde, tu es en train d'élaborer. Là, la Russie. Est-ce que la Russie cherche la guerre avec l'Europe?
Non, mais si l'Europe cherche la guerre avec la Russie, la Russie va se défendre. Et c'est ce que Poutine répète depuis des mois. Moi, j'ai toujours dit aussi, la Russie n'est pas en mesure de lancer une guerre offensive contre l'Europe, parce que si elle devait le faire, ça nécessiterait de la part de la Russie l'imposition de la conscription. Ça serait d'envoyer des jeunes Russes contre leur gré à la guerre. Et ça, c'est que ça serait dépasser une ligne rouge que la population russe n'est pas nécessairement.
Ça serait le début de la fin pour Poutine, selon toi?
Oui, parce que le contrat social autoritaire de Poutine repose pas sur un esprit de mobilisation. Poutine, depuis qu'il est au pouvoir, en 31 décembre 1999, il a acheté la passivité politique des Russes par l'octroi de bénéfices. L'augmentation des salaires, la possibilité d'aller à l'université, le versement des pensions, l'indexation des pensions. Exactement. C'est comme tous les dictateurs dans un régime
autoritaire. Mais en carburant avec le nationalisme russe.
Mais tu vois, depuis la crise de 2008, la crise financière, il a réalisé qu'il n'était pas en mesure de soutenir dans le temps une forme de contrat social comme celui-là, parce que ça coûtait trop cher. Depuis 2008, le prix du baril de pétrole a chuté. Oui. Puis il a réalisé à ce moment-là que c'était plus possible. Donc depuis 2011-2012, son retour au pouvoir après l'intermède Medvedev, il a changé sa rhétorique, puis il essaie de mobiliser les Russes derrière l'idée de la Russie, la Sainte Russie, qui est le dernier rempart du christianisme contre les forces décadentes de l'Occident.
Ouais, c'est
dans son discours, mais ça en tout cas, l'espoir, c'est que ça pogne avec la population russe. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que 15 ans plus tard, les jeunes Russes sont pas prêts à aller mourir pour la Russie gratuitement. Ils ne le font parce qu'ils sont payés 5-6 fois le salaire moyen. Donc, je pense qu'il a aussi réalisé dans le cadre de sa guerre en Ukraine. Puis il sait très bien qu'il y a peut-être les moyens technologiques, les moyens militaires sur papier pour peut-être passer à l'offensive contre la Russie, mais la population ne le suivrait pas. Enfin, je pense que c'est ça le principal défi pour lui. Puis c'est la raison aussi pour laquelle lui aussi a mis en place un système de conscription volontaire. Parce que dans l'armée russe, t'as des volontaires. Donc, ceux qui servent en Ukraine, c'est ce qu'on appelle en russe les contractniki, donc des soldats sous contrat. Donc, c'est eux qui s'engagent pour 3 ans, qui sont payés des salaires de fou. C'est eux qui servent en Ukraine. La Russie a toujours son service militaire obligatoire. Donc, tous les jeunes doivent y passer pendant, je pense que c'est 1 an, mais ces soldats-là, ces conscrits-là, ne servent pas en Ukraine. T'sais, ils font la sécurité dans les aéroports, au coin de rue, puis ça reste comme ça. Mais entre les deux, tu as aussi l'armée du dimanche, comme l'équivalent de la garde nationale aux États-Unis, donc des réservistes.
Et puis
c'est comme ça. C'est des gars qui, du lundi au vendredi, ont des jobs d'avocat, d'ingénieur.
Ils vont faire des pochables la fin de semaine.
D'électricien. Puis la fin de semaine, ils mettent
des mitraillettes en bois.
C'est ça. Puis ils vont tirer avec des vrais Kalachnikov, puis ils creusent des tranchées, puis ils se pratiquent à la guerre. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça des soldats du dimanche. C'est des réservistes. Mais il a changé la loi l'automne dernier pour permettre plus facilement maintenant leur mobilisation. Puis ça, c'est 2 millions de réservistes potentiels. Donc, tu vois, la Russie, c'est comme si la Russie se préparait lentement mais sûrement à devoir mobiliser beaucoup plus qu'un 800 000 contractniki. Puis les Français font exactement la même chose en développant l'idée du service volontaire. Mais le problème, c'est que la France n'est pas prête à faire la guerre pour différentes raisons. Premièrement, la France n'a pas assez d'équipement puis d'équipement que la France n'a pas adapté.
Peut-être bon
qu'arrête
à en donner à l'Ukraine.
Ben, c'est ça, mais tu sais, c'est bien beau d'avoir 150, 200 chars Leclerc, Mais on se rend compte maintenant en Ukraine que les chars d'assaut, ça peut être détruit par des drones qui valent 500 piastres. Donc, c'est plus nécessairement les armes qu'on a besoin pour le type de guerre actuelle. Donc, l'armement militaire français n'est pas nécessairement adapté aux guerres de demain. Puis l'éthos guerrier n'est pas au rendez-vous. On l'a vu, la contre-réaction du chef d'état-major lorsqu'il a dit « Préparez-vous à perdre vos fils. » Les gens ont dit « Non, merci. » Tu sais, il y a un esprit un peu pacifiste, c'est un peu la prolongation de la logique COVID. T'sais, on ne veut pas mourir. Puis le troisième point, c'est se battre pour quoi, au juste? Tu sais, l'idée, quand tu t'engages dans les forces armées, c'est tu te bats pour ton pays. Mais ça implique que tu aimes ton pays. Mais le problème, c'est que les woke, depuis les dernières décennies, ils ont détruit l'idée du sacrifice pour la France auprès de la jeunesse parce qu'ils ont dit la France doit être honteuse à cause de son passé colonial. Ben, tu sais, tu as grandi dans un environnement comme celui-là. Pourquoi est-ce que tu irais t'engager pour, essentiellement, c'est 800 euros par mois, là, même si c'est pas imposable, c'est rien, là. C'est le salaire minimum.
Du coup, on va huer la Marseillaise au Stade de France.
Ben, ouais. C'est ça. Dans les matchs de soccer au Stade de France, tu as une partie du public qui hue la Marseillaise. Ben, ça, c'est le résultat de ce que les woke ont fait depuis les dernières décennies. Ils ont détruit l'idée de ben, c'est normal dans un pays d'aimer son pays, puis si on est appelé à devoir risquer sa vie pour le défendre, ben, on va le faire peut-être pas avec joie, mais on va être quand même être prêt à le faire.
Avant...
Ils ont inversé le discours.
Non, ils ont inversé le discours. Mais je veux qu'on en reste là. Je veux absolument aborder l'autre sujet avant de te laisser. Restons-en à la configuration démographique et ethnique des sociétés. Et là, on s'en va en Angleterre. Ce qui se passe en Angleterre, c'est complètement capoté. Étude de 2021, juste pour mettre la table, environ 55 % des Pakistanais britanniques, oui, les Pakistanais musulmans qui restent en Angleterre, sont mariés à leurs cousins. Je répète, sont mariés à leurs cousins. Plus de la moitié des musulmans qui viennent du Pakistan qui restent en Angleterre. La BBC nous dit ça. Une pratique courante, alors que dans les mariages en général, c'est 3 % Ça fait des maladies, la fibrose kystique et tout le kit. Là, qu'est-ce qui s'est passé au cours des derniers jours avec Keir Starmer? Il n'a pas voulu passer son vote, c'est quoi? Ben, explique-nous un peu, là.
Un député conservateur qui voulait justement faire passer une loi pour interdire les mariages entre cousins. Et puis le gouvernement de Keir Starmer a décidé de s'opposer à cette mesure-là. Puis, c'est ça, comme tu l'as dit, il y a différentes études qui ont été faites en Grande-Bretagne, principalement dans la ville de Bradford, où les chercheurs ont fait des études sur plus de 13 000 bébés dans la ville sur une période entre 2007 et 2010. Ils les ont suivis depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence.
Beaucoup sont tarés.
Ouais, ben un enfant sur six parmi les 13 000 était issu de parents de parents qui étaient cousins germains. Et puis ben ils ont aussi découvert, comme tu l'as dit, que la raison étant que lorsque les parents ont des gènes récessifs, il y a une chance sur quatre que leurs enfants héritent de certaines maladies comme la fibrose kystique. Puis inévitablement, lorsque les parents sont cousins, ben ils sont plus susceptibles d'être tous les deux porteurs du gène. Fait que ça fait en sorte qu'un enfant de cousin germain aurait 6 % de chances d'hériter d'une maladie comme la fibrose kystique contre 3 % pour la population en général. Les chercheurs ont aussi découvert qu'un enfant de cousin germain avait 11 % de probabilité d'être diagnostiqué avec un problème de parole et de langage contre 7 % pour les enfants dont les parents
étaient
pas...
Ça fait des belles sociétés, hein, mon Jean-François?
Ben oui. Puis on doit se poser la question, pourquoi est-ce que Keir Starmer a décidé de s'opposer à cette pratique-là? Parce que c'est sa clientèle électorale. Les travaillistes maintenant en Grande-Bretagne, comme c'est le cas pour les socialistes en France, ou les démocrates aux États-Unis, maintenant leur clientèle, c'est les communautés ethniques.
C'est fou, raide, pour vrai. Je veux pas m'opposer au mariage entre cousins. Puis quand on dit cousin, c'est pas ma petite cousine que j'ai pas vue. Non,
c'est...
Je me mets avec la fille de ma tante Suzanne. Ma tante Suzanne, qui est la sœur à ma mère, elle a une fille. Je me mets avec. J'ai des enfants. Ça fait des tarés,
Tout ça pour ne pas déplaire aux gens qui jusqu'à un passé très récent, votaient pour les travaillistes. C'est triste, hein? Le clientélisme électoral. On a beaucoup critiqué le clientélisme électoral de la communauté ukrainienne au Canada, qui pousse le Canada à investir des milliards et des milliards de dollars dans le soutien de la guerre en Ukraine, une guerre qui est perdue pour l'Ukraine. Mais en parallèle, vous avez une autre forme de clientélisme électoral comme ça en Grande-Bretagne, où on s'oppose à la consanguinité pour se faire réélire. Tu sais, quelque part, quand tu regardes le fonctionnement de la démocratie, tu dis... Tu sais, tu regardes le fonctionnement de la démocratie puis tu te rends compte, la démocratie, c'est un beau système politique, mais ça commence à partir en couille quand les élus se mettent à se mettre les deux pieds dans le clientélisme électoral.
C'est dégueulasse.
Pour, tu sais, orienter une politique étrangère qui va à l'opposé des intérêts nationaux du pays, ou dans ce cas-ci, c'est boire la consanguinité.
Hey, le PM d'Angleterre veut plaire à ceux qui marient leur cousine. C'est ça l'histoire?
C'est le titre que vous pouvez mettre pour mon entrevue d'aujourd'hui.
C'est déjà fait.
C'est absolument
Dan,
dégueulasse.
Ça n'a pas d'allure.
Mais ça montre aussi que...
Je sais que ça n'a pas de bon sens.
Tu sais, ça montre que les gauchistes, les socialistes en Occident, ils ont arrêté de s'intéresser à ce qui a toujours historiquement été leur clientèle électorale, c'est-à-dire les travailleurs.
Les gauchistes, c'était les premiers à dire durant le COVID show, la science, la science, la science... Mais il n'y a scientifique qu'un code génétique, baptême.
Quand ça leur adonne, la science, c'est correct. Puis quand ça leur adonne pas, parce que ça va en l'encontre de leur intérêt électoral, ils mettent ça dans le fond du tiroir, puis on passe à un autre appel. Là.
On a déjà vécu ça ici aussi. On sait ce que c'est, là. On sait ce que ça donne.
Mais ça, on n'est pas rendu là encore, honnêtement. Mais on s'en va tranquillement.
Entre nous autres, on l'a vécu un peu, quand même.
Quoi, ça?
Le
cousin-cousin?
Ouais.
Ah non, c'est sûr, on n'a pas de
leçon. C'est permis au Québec. Mais c'est permis au Québec. Hein? Les mariages entre cousins au Québec sont permis.
C'est
globalement, à l'échelle mondiale...
Ma queen!
mais tu sais, juste pour à des fins statistiques, à l'échelle mondiale, on estime qu'un peu plus de 10% des mariages seront des cousins de premier ou de deuxième degré. Mais les sociétés qui interdisent les mariages entre cousins, c'est une petite minorité. T'as la Chine, ce que j'ai vu, t'as la Chine, l'Ouzbékistan, la Belgique, puis beaucoup d'États américains, parce que c'est une compétence provinciale, entre guillemets, c'est une compétence qui appartient aux États américains. Donc, l'immense majorité des États américains interdisent les mariages entre cousins. Mais pour ce qui est du reste, au Canada, au Québec, c'est permis. Tu sais, je pense qu'on peut aussi se poser la question, parce que avec l'augmentation de l'immigration aussi... Oui. Au Québec, ben, ça va devenir de. C'est pas parce que c'est permis que c'est courant. Mais le fait est qu'en accueillant des gens qui sont issus de traditions, de coutumes, où c'est davantage la norme
pour les
Canadiens français, ben c'est peut-être le temps maintenant, quand il n'y a pas encore de masse de clientélisme électoral, pour interdire quelque chose qui, génétiquement parlant, fait pas de sens.
Donc, Legault pourrait dire c'est pas le temps là, de marier. La cousine, là, ouais, mais même si j'embrasse ma sœur, là...
C'est ça, j'allais dire. Vous avez le droit d'embrasser votre sœur, mais pas de marier votre cousine.
On veut pas se marier à la cousine, là. Vous avez le droit de jouer au faux-fun dans le temps des fêtes.
Hey, merci beaucoup, Jean-François. C'était un grand plaisir.
Salut, bonne fin de journée.
Tu fais donc bien simple, cher.
Ben, c'est de même, hein?
Je m'en vais super avec ma cousine. T'en connais-tu ma femme?
Toute l'équipe de Morel Live.
Morel.
De retour dans un instant.
Live.
Oui, monsieur.
Radio X.